Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Culture Flip. Culture Flip, l'émission culturelle à 360 degrés sur Radio GACO, réalisée par les étudiants du DUT GACO à l'ULCO de Saint-Omer. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'émission de Carigan, Raphaël et Amandine. En vue des circonstances, nous n'avons pas pu nous réunir pour enregistrer dans les studios GACO, mais nous sommes chacune chez nous. Je vais maintenant passer la main à Raphaël qui va nous parler de la transformation de la pollution en art.
La pollution occupe maintenant une place importante dans le monde et dans nos vies. Certaines personnes veulent faire réagir, donc ils ont juste décidé de transformer les déchets en art.
Et donc en quoi la transformation de la pollution en art va pouvoir sensibiliser le monde?
Eh bien, pour répondre à cette question, nous verrons pourquoi et comment le font-ils. D'abord, nous trouvons tous les jours des déchets par terre, que ce soit des canettes de bière, des paquets de cigarettes ou même plus souvent des mégots, littéralement partout. Cela m'amène à vous dire que nos façons de penser et d'agir doivent radicalement changer. Nos agissements ont des répercussions plus ou moins graves et tout naturellement nous en subirons les conséquences. J'ai même envie de dire que nous les subissons déjà. Thierry Zimmermann, président de Loco Art, s'est posé la question: que puis-je faire pour tenter de sensibiliser, voire éduquer autour de moi sur le sujet de cette lancinante question des déchets abandonnés un peu partout dans le paysage? C'est donc pour cela que des personnes vont prendre des déchets et les transformer pour sensibiliser. Il n'est même plus sujet d'être optimiste ou pessimiste, mais de s'engager. Il faut penser et prendre en compte la biodiversité, les écosystèmes, la fonte des glaces, la sixième extinction. Donc pour information, la sixième extinction de masse, c'est entre autres la perte récente de la biodiversité due aux activités humaines. Et aussi les zoonoses. Les zoonoses sont des maladies ou infections qui transmettent des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa. Les causes, ça va être les bactéries, les virus ou les parasites. Et enfin, il y a la déforestation. Il est aussi important de sensibiliser les plus jeunes sur la pollution et de les faire participer, pour qu'ensuite, à leur tour, ils informent sur les conséquences de la pollution sur le monde sur lequel nous vivons. Pour cela, ils ont mis en place le projet EcoMom, qui est une sensibilisation à la revalorisation des déchets. C'est un projet qui mixe collectif, artistique et écologie. Les enfants doivent juste fabriquer une station de récupération et de transformation des déchets plastiques. Et cela a pour but de devenir une œuvre d'art collective. L'art dans l'espace public est un très bon moyen pour véhiculer un message. C'est donc pourquoi des artistes choisissent de mettre en œuvre leurs arts en pleine rue. Bordalo 2, street artiste portugais, crée des sculptures à partir des déchets qu'il récupère. Ces œuvres, c'est tout simplement des animaux monumentaux qui sont faits de matériaux qui détruisent leur environnement. Ces sculptures s'affichent sur les murs de Lisbonne et montrent les ravages de notre société sur la nature. C'est ce qu'on pourrait qualifier de spectaculaire. Puis même, c'est un appel à l'agissement. C'est quelque chose de plutôt incroyable. Aussi, il y a une exposition qui est nommée Courant Vert. Les œuvres sont positionnées en trois catégories. Avertir, agir et rêver. L'œuvre en cours d'élaboration se trouve dans la catégorie agir. Solar Igloo vise à devenir une sculpture publique praticable, un abri contre le réchauffement climatique. Son objectif est d'être autonome sur le plan énergétique. Chez les Inuits, l'igloo est un abri de neige qui isole du froid extérieur. Donc Solar Igloo renverse cette situation et donc en effet, le public pourra entrer à l'intérieur de Solar Igloo. Une fois installé en période de canicule sur une place publique dans une grande ville, ils peuvent y trouver un environnement glacé et rafraîchissant. Sur cette exposition, il y a aussi une map monde qui lance l'alerte par Christiane Geoffroy, qui est peintre et vidéaste. Donc elle a peint sur un mur un planisphère qui est d'un bleu outre-mer. À l'intérieur de la map monde, les frontières n'existent plus, devenue telle un être vivant. Elle s'est transformée, bouffée au nord, rabougrée au sud, une Afrique squelettique. Cette carte raconte en un regard l'état de notre monde. Les contours des continents ont été indexés et les taux de CO2 ont été notés et les produits intérieurs bruts aussi durant l'année 2010. Et donc espérer positivement qu'un jour elle puisse reprendre le plus rapidement sa forme originelle.
Et donc, quel est ton avis sur cela?
Donc, personnellement, je trouve ça super important de sensibiliser car il s'agit de notre futur et les conditions dans lesquelles nous vivons. La pollution est un sujet qui m'intéresse énormément et les moyens de sensibiliser mélangent à la fois triste réalité et beauté de l'art. J'espère que dans un futur proche, même très proche, les êtres humains prendront enfin compte de l'urgence dans laquelle nous sommes et aussi tous les moyens sont bons pour faire réagir, et donc l'art est un super moyen. C'est pour cela que l'art est un super moyen de sensibilisation contre la pollution.
Bien, merci. Maintenant, passons à notre prochaine chroniqueuse, Carigan, qui va nous parler du VIH.
Le premier patient guéri du VIH est mort d'un cancer. Premièrement, le VIH est une maladie qui a toujours existé, mais a été stigmatisée à partir des années 90, mais aussi de nos jours. Pendant les années 80 et 90, le sida était synonyme de mort rapide et associé à la réurgence de l'épidémie. En 96 et 97, la société prend conscience que le sida est une maladie susceptible de se diviser au-delà des groupes sociaux. En 98 et 2000 est une période où le traitement permet d'augmenter la durée de vie des personnes infectées par le sida et ont des effets significatifs sur la mortalité. Suite à ces années, de différentes associations luttant contre le sida se réunissent afin de fonder le SIDAction, où Lynn Renault est vice-présidente depuis de nombreuses années. Comment mieux connaître et se protéger de la maladie du sida? Tout d'abord, le VIH est une maladie sexuellement transmissible. De plus, des progrès ont eu lieu durant ces dernières années, ce qui a permis de développer des traitements qui maintiennent le virus en situation d'inactivité pour une durée qui reste encore indéterminée, mais dont les effets sont néanmoins significatifs. Aujourd'hui, presque 20 millions de personnes vivent avec le sida. Avec les traitements réalisés, en 2006, un médecin a pratiqué une greffe de cellules souches d'un donneur avec une mutation génétique rare qui avait une résistance naturelle au VIH sur le premier patient guéri du VIH. Ce premier patient était surnommé le patient Berlin. Il a voulu partager son histoire afin de prouver qu'il y avait une guérison du sida. Lors d'une soirée d'information du VIH à Lyon, des personnes quelconques ont pu apprendre qu'une personne séropositive pouvait bénéficier d'un traitement, rendant la charge du virus indétectable. Ce traitement agit sur la densité du virus et dans le sang, et permet de faire baisser la charge virale normale ou élevée. Les personnes du VIH doivent avoir un suivi médical régulier afin de vérifier la densité du sang. Ceci est un message qui transforme la vie des personnes vivant avec le VIH. Une stigmatisation des personnes infectées est aujourd'hui à 1,7 million de personnes et 70 millions... Stagnation des personnes infectées à 1,7 million et 770 000 personnes sont mortes. Les plus pessimistes voient le nombre de morts doubler dans les 12 prochains mois suite au COVID-19. Ensuite, le contexte du COVID-19 a ralenti la lutte contre la prévention du sida. La pandémie menace très directement les progrès qu'on peut rencontrer dans la lutte contre le sida. Les programmes de lutte sont les premiers touchés, en particulier ceux de la prévention. Du coup, les associations essayent de garder le contact grâce au porte-à-porte et des échanges de prévention personnalisés. Avant cette pandémie, différentes actions ont eu lieu, comme la soirée du SIDAction afin de récolter des dons, des manifestations, des préventions auprès des nouvelles générations et la journée du SIDA qui est le 1er décembre. En matière de prévention, les associations ont déployé des efforts importants pour prévenir la population les plus vulnérables, telles que les jeunes et les populations clés. Des personnes séropositives peuvent être exclues de la société, perdre leur emploi et même un soutien familial. Dans le livre Sport et VIH, Un corps sous contrainte de Sylvain Ferré et Julie Thomas, on racontait l'histoire de personnes séropositives qui se demandent si c'est possible de continuer l'activité sportive.
Du coup, quel est le meilleur moyen pour se protéger du sida?
Le meilleur moyen pour se protéger est le préservatif et toute personne peut être contaminée. Le sida est une maladie sexuellement transmissible et non virale, comme beaucoup le pensent. Les nouvelles générations ont peu de connaissances au niveau du sida et des conséquences que cela peut avoir sur la vie d'une personne. Chaque personne devrait connaître la maladie du sida afin de se protéger. La protection, quelle qu'elle soit, est la meilleure pour se protéger.
Merci Carrigan. Maintenant, passons à notre dernière intervenante, Amandine, qui va nous présenter un sujet sur la responsabilité des personnalités.
Et oui, tout comme n'importe quel individu, les personnalités publiques pensent et agissent comme ils le souhaitent. Mais sont-ils dans leur droit de proclamer haut et fort leur opinion sur des sujets sensibles ou bien même qui pourraient faire polémique dû à leur notoriété? Bien que les avis soient partagés dû à la fameuse séparation de l'œuvre et de l'artiste, de plus en plus de personnes parlent de la responsabilité éthique, ce qui signifie que tout artiste doit penser aussi aux personnes qui seront impactées par ses propos et donc ne pas aller à l'encontre de la morale. Le livre « Le principe de sincérité et l'éthique de responsabilité de l'écrivain » renseigne très bien pour ce sujet. Je vous le souhaite d'ailleurs vivement. Ce livre a été écrit par Gisèle Sapiro. Pour ce sujet, toutes les personnes sont impactées, que ce soit des écrivains, chanteurs, acteurs ou autres. Le terme de « reveal culture » se répand énormément.
Mais qu'est-ce que le « reveal culture » ?
Ce terme signifie la « cancel culture » ou « call out culture », dit en français « culture de la dénonciation ». C'est une pratique née aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement en vue de leur ostracisation les individus ou les groupes responsables d'actions ou de comportements perçus comme problématiques. D'ailleurs, ce sujet est évoqué dans un article de Le Monde pour une reveal culture des talons linéaires. En effet, dans cet article, nous pouvons voir les paroles fortes de sens de Bernard Pivot. Dans les années 1970 et 1980, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature. Moralement, c'est un progrès. Dans ses paroles, il montre ici la grande avancée des personnes. Par exemple, pour la littérature, il y a eu un appel au boycott de l'écrivaine J.K. Rowling suite à ses propos injurieux envers la communauté transgenre. En effet, l'auteur a plusieurs fois sur les réseaux tenu des propos complètement déplacés qui ont scandalisé de nombreux internautes. Nous pouvons lire sur le réseau social Twitter des tweets comme « Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser au vrai visage de J.K. Rowling. Sa transmophobie assumée qui blesse tant de personnes à travers le monde. J'aurais aimé que l'actrice des livres de mon enfance soit une femme aimante, tolérante, bienveillante, mais il n'en est rien. Boycotter J.K. Rowling, ou bien même assez de J.K. Rowling, j'en peux plus. Son acharnement révèle de la haine. De Watch Me me séparer... Et Watch Me me séparer, la femme de l'actrice, je ne lirai plus ses livres, je ne verrai plus ses films. Mais hélas, il y a encore beaucoup de choses inacceptables qui se passent dans le milieu, comme dans bien d'autres, comme la musique par exemple. Un article du Monde, hashtag MusiqueToo, libère la parole dans la musique. Dans cet article, nous pouvons voir que, dans une étude publiée en 2019 par le collectif de la santé, des artistes et des professionnels de la musique et de la guilde des artistes de la musique, 31% des 256 femmes interrogées travaillant dans le secteur musical disaient avoir été harcelées sexuellement. Il y a aussi les personnalités qui profitent de leur notoriété pour faire des actes impardonnables, comme Romeo Elvis par exemple. Accusé d'agression sexuelle, le jeune artiste a reconnu avoir utilisé ses mains de manière inappropriée sur quelqu'un croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une. Le chanteur s'est à la suite de cette révélation excusé publiquement sur les réseaux sociaux en stipulant qu'il n'est pas un exemple à suivre et qu'il s'est arrêté dès qu'il a compris que la personne qui l'accompagnait n'était pas consentante. Malheureusement, il n'est pas la seule personne à avoir agi de la sorte.
Et donc, c'est quoi ton avis sur cela ?
Pour moi, ces différents actes sont impardonnables. Comment peut-on dire de faire une différence entre l'artiste et son œuvre, alors que les deux sont la même et unique personne? Je trouve qu'il serait temps que les choses prennent un tournant différent et que toute personne prenne compte de leur responsabilité morale envers chaque individu. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.studiogaco.fr et surtout n'hésitez pas à réagir sur notre fil Twitter Gaco Studio. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur notre radio.